Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. En Guinée, l'opposition a annoncé mardi la reprise prochaine de la mobilisation après des mois d'une contestation qui a fait des dizaines de morts. C'est en réaction à l'annonce du RPG, le parti du président Alpha Condé, selon laquelle ce dernier a accepté de briguer un troisième mandat le 18 octobre. Nous y reviendrons avec notre correspondant Zakaria Camara en seconde partie de cette édition. Au Mali, les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta il y a 2 semaines ont fait mardi un pas vers la transition devant ramener les civils au pouvoir en fixant à la fin de la semaine la tenue de concertation avec les partis et la société civile. Ces journées de concertation nationale sur la gestion de la transition auront finalement lieu samedi et dimanche à Bamako, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, son chef, a annoncé la junte. Nous y reviendrons également avec Kassim Traoré. Le chef de la diplomatie européenne a qualifié mardi le dossier libyen de priorité absolue lors d'un déplacement à Tripoli où M. Borrell a discuté des moyens de renforcer le cessez-le-feu et de relancer les pourparlers entre pouvoirs rivaux. C'est ce qu'il a tweeté à l'issue d'un entretien avec le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, le chef, le rival du maréchal Khalifa Haftar, l'enfort de l'Est libyen. Au Maroc, 7 détenus du Hirak, mouvement de protestation ayant agité le nord du royaume en 2016-2017, ont entamé une grève de la faim pour demander leur libération, selon l'AFP citant Ahmed Zefzafi, père du leader du mouvement. Son fils, Nasser Zefzafi, et le numéro 2 du Hirak, Najib Ahem Jik ont entamé leur mouvement il y a 19 jours avant d'être suivis par 5 autres détenus au cours des derniers jours, selon la même source. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'est rendu mardi à Kenosha dans le Wisconsin. Après avoir inspecté les ruines de commerce brûlées, M. Trump a assimilé à du terrorisme intérieur les manifestations violentes et actes de vandalisme qui ont secoué la ville. Kenosha a été ravagée par des émeutes anti-police et anti-américaines, a-t-il jugé. M. Trump n'a pas nommé spontanément Jacob Blake, l'Africain-américain grièvement blessé par un policier blanc, mais a parlé de l'enquête en cours en réponse à une question sur son cas. Son rival démocrate à l'élection du 3 novembre, Joe Biden, a réagi par ces mots. Trump passe à côté, une fois de plus, refusant de prononcer les mots que les habitants du Wisconsin et les Américains partout dans le pays avaient besoin d'entendre aujourd'hui venant de leur président. Une condamnation de toutes les formes de violence, peu importe qui la commet. Nous reviendrons sur ce débat en seconde partie de cette édition. Une manifestation a eu lieu mardi soir à Los Angeles pour dénoncer la mort d'un Africain-américain tué la veille par la police qui affirme qu'il était armé d'un pistolet dans un climat général de tension relancé donc par l'affaire Jacob Blake. Ils disent qu'il a couru, qu'il a lâché un tas de vêtements et un pistolet, a tweeté l'avocat Ben Crump qui représente la famille, ajoutant « Il ne l'a pas ramassé, mais les policiers lui ont tiré dans le dos plus de 20 fois » puis l'ont laissé là pendant 10 heures. Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé mardi le lancement fin septembre d'un test de dépistage du coronavirus qui donnera les résultats en 15 minutes. Ce lancement doit se faire en partenariat avec la société sud-coréenne SD Biosensor Inc. qui dispose déjà de nombreux tests de dépistage et avec laquelle Roche dispose d'un accord de distribution mondiale. Un militaire d'origine tibétaine engagé au sein des forces spéciales indiennes a été tué dans un accrochage avec l'armée chinoise à la frontière. La suite de nos informations, le nouveau président du Malawi, Lazarus Chakwera, a ce mardi rétabli dans ses fonctions le chef de l'armée, limogé par son prédécesseur Peter Mutharika, après avoir fait intervenir l'armée pour protéger des manifestants hostiles à l'ancien président. Jacques Aristide.
L'actuel chef de l'État Malawi indique avoir rétabli avec effet immédiat le général Vincent Nounoué à la tête de l'état-major de l'armée au motif que son prédécesseur avait fait un usage abusif de ses pouvoirs à son motif. L'an dernier, des manifestations dénonçant des fraudes et contestant la réélection du président sortant Peter Mutharika avaient été le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposition. En juillet, le général Nounoué avait fait descendre ses troupes dans les rues de plusieurs villes du pays pour mettre fin aux violences. Il avait été limogé par M. Mutharika en mars dernier, un mois après l'annulation par la Cour constitutionnelle de sa réélection pour cause de fraude. Lazarus Chakwera a été élu en juin lors d'un nouveau scrutin durant lequel il a battu M. Mutharika. Mon but est de guérir les blessures et l'injustice d'une décision inique infligée à l'ensemble de notre armée, a déclaré hier le chef de l'État lors d'un discours à la nation.
Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a affirmé mardi à Khartoum que l'accord de paix de Djouba, paraphé par les autorités soudanaises de transition et plusieurs mouvements rebelles, crée un nouvel État soudanais et va remédier aux injustices du passé. Les détails avec Nanit Talani.
Pour Abdallah Hamdok, la paix reste le rêve des Soudanais. Ce qui a été accompli dans la première phase est une grande réalisation historique. Cela nous place dans la bonne direction et renforce notre détermination à poursuivre le chemin vers la paix, a-t-il affirmé. L'accord de paix organise le partage du pouvoir, le retour des réfugiés et des déplacés, la sécurité, la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral et le partage des richesses. Il stipule que les mouvements armés devront à terme être démantelés et leurs combattants devront rejoindre l'armée régulière qui sera réorganisée pour que toutes les composantes du peuple soient représentées. Deux groupes armés ont refusé jusqu'à présent de se joindre à l'accord. M. Hamdok a indiqué que le gouvernement cherchera à les rencontrer pour parvenir à une paix globale. Paraphé lundi à Djouba au Soudan du Sud après des mois de négociations, cet accord doit mettre un terme à 17 années de conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts. La date de sa signature officielle n'a pas été annoncée. Auparavant, plusieurs accords de paix ont échoué, notamment en 2006 et 2010.
Des millions d'enfants ont repris le chemin de l'école en Europe. Les autorités un peu partout ont imposé le port du masque pour éviter que les établissements secondaires ne deviennent des foyers de propagation du coronavirus, Abdourahmane Dia.
Les élèves français, belges, russes et ukrainiens ont retrouvé les salles de classe mardi après leurs camarades allemands, nord-irlandais et écossais. La rentrée scolaire a été en revanche repoussée d'une semaine au 14 septembre en Grèce. Dans les écoles françaises, le port du masque est obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir de 11 ans. En Grèce, il sera exigé dès la maternelle. En Espagne, où la rentrée aura lieu entre le 4 et le 15 septembre selon les régions, c'est dès 6 ans que les enfants devront porter le masque à l'école et à tout moment. En Belgique, la première ministre Sophie Wilmès a jugé fondamental que les enfants puissent reprendre une vie scolaire aussi normale que possible, justifiant le maintien de la rentrée ce 1er septembre. Une opinion partagée par le gouvernement britannique pour qui les bénéfices d'un retour à l'école sont plus importants que les risques potentiels. Dans certains pays, les enfants sortiront par rotation en récréation pour éviter des cours bondés. En Russie, la rentrée a eu lieu alors que le pays vient d'atteindre le million de cas.
La Minute Écho, Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, la fermeture des ports clandestins a été ordonnée et les propriétaires des infrastructures illégales seront sanctionnés, selon un compte-rendu ministériel. Ce secteur a enregistré de nombreux investissements de manière incontrôlée, violant parfois la législation sur l'encadrement. La multiplication des activités privées a brisé le monopole de la Société commerciale des transports et des ports en matière de gestion portuaire. En République du Congo, le ministère de l'économie forestière a signé un accord de partenariat avec le PNUD pour un projet de renforcement des capacités des jeunes producteurs de Mbanza Ndunga et Lumo dans le Pool. Financé par le Japon, ce projet vise à initier la jeunesse à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agroforesterie. L'accent sera mis essentiellement sur les produits non ligneux. L'Égypte a signé un prêt de 2 milliards de dollars pour financer le budget de l'État et soutenir l'économie touchée par la crise du coronavirus. L'accord a été coordonné par deux banques des Émirats arabes unis. L'Égypte a porté son budget 2020-2021 à plus de 139 milliards de dollars, le plus important de son histoire. La crise a généré un déficit de 24 milliards de dollars pour l'exercice précédent.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les dates des compétitions CAF de la saison 2020-2021 pour la reprise sont connues. D'après le calendrier dévoilé par la commission Interclub, les associations nationales ont du 1er septembre au 20 octobre pour inscrire leurs clubs et les dates d'inscription des joueurs vont du 21 octobre au 5 novembre et du 6 novembre au 19 novembre 2020. Les tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF débuteront du 20 novembre au 20 décembre. La phase de poule de la Ligue des Champions débutera le 12 février 2021 pour s'achever le 11 avril et celle de la Coupe de la Confédération du 10 mars au 26 avril. Les finales sont prévues le 10 juillet pour ce qui est de la Coupe de la Confédération et le 17 juillet pour la Ligue des Champions. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, s'est expliqué face à la justice suisse pour les 2 millions de francs suisses versés à Michel Platini, une affaire qui a mis les deux hommes au banc du football mondial. C'est le moment où on commence à parler de ce dossier qui dure depuis 5 ans et sur lequel on ne m'a jamais posé de questions. Donc, je suis content de pouvoir donner des informations là-dessus, a déclaré l'ancien dirigeant du football mondial. Lundi, Michel Platini a répondu aux questions du procureur Thomas Hillebrand. Sepp Blatter est visé depuis 2015 par une enquête pour gestion déloyale après la découverte du paiement consenti par la FIFA à Michel Platini de 1,8 million d'euros début 2011 pour un travail de conseil remontant à la période 1999-2002. Ce dossier a valu à Blatter comme à Platini une suspension de plusieurs années de toute activité liée au football qui a empêché l'ancien président de l'UEFA de briguer en 2016 la présidence de la FIFA. Athlétisme, plus de 300 athlètes spécialistes des courses sur route font partie d'un nouveau programme antidopage, a annoncé l'unité d'intégrité de l'athlétisme. La saison des courses sur route internationale frappée par la pandémie du nouveau coronavirus, annulation des marathons de New York, Berlin, Paris et autres, reprend dimanche en Bosnie-Herzégovine avec en point d'orgue le duel attendu entre le Kenyan Eliud Kipchoge et l'Éthiopien Kenenisa Bekele au marathon de Londres le 4 octobre. Un nouveau système antidopage de surveillance et de contrôle inopiné a été créé spécifiquement pour les courses sur route en 2019.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
émission d'aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les trois personnels soignants, notamment un médecin, un infirmier et leur chauffeur, enlevés en 2019 dans la région du lac Tchad, ont été libérés après 10 mois de captivité. Ils ont été présentés au ministre de la Santé publique ce mardi à N'Djamena. Leur libération fait suite à l'opération Colère de Bohoma en mai dernier, qui a permis aux autorités d'affirmer qu'elles avaient délogé Boko Haram du territoire tchadien. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
L'émotion était vive hier lorsque les trois anciens otages ont fait leur entrée dans la salle. Les amis, parents, enfants et épouses n'ont pas pu retenir leurs larmes à les revoir vivants après plusieurs mois de captivité. Cheveux touffus, regards hagards, les ex-otages aussi ont retenu difficilement leur émotion. Discours de bienvenue du ministre en charge de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul.
Je voudrais vous souhaiter un excellent retour dans la vie, parce que vous avez quitté la vie, dans la liberté, parce que vous avez été privé de la liberté, et dans vos familles respectives, parce qu'on vous a arraché à ces familles-là.
Les larmes aux yeux, l'épouse du médecin, désormais libre, s'en remet à Dieu.
Excusez-moi, je suis manquée de mots. J'ai traversé le moment très, très difficile. Survivre seul, sans mari. J'ai dit gloire à Dieu. Jour pour jour, ça fait 10 mois que mon mari est aujourd'hui revenu vivant parmi nous. Je suis très contente. Je demande à Dieu de le fortifier, de lui donner la santé. Je l'accueille bras ouverts sur le père de mes enfants. Et aujourd'hui, il est parmi nous. Dieu merci.
Le docteur Ernest Bezo Mohamed parle des conditions de leur détention et confirme que l'opération colère de Bohoma a été un élément déclencheur de leur libération.
Parce que après cette colère, ils ont amené plusieurs blessés. C'est pendant cette période qu'ils ont fait appel à moi. J'ai pu les soigner. Je sais qu'ils ont fait du mal à ces pays. Mais moi aussi, pour sauver ma vie, je suis obligé de les soigner. Et c'est après ça qu'ils ont décidé de nous libérer. Je tiens à remercier de tout mon cœur son Excellence le Président Idriss Déby à avoir déclenché cette colère de Bohoma. Nous avons mangé de n'importe quoi. Nous avons bu de n'importe quelle eau. Nous vous demandons juste de nous donner de quoi assurer notre santé.
Comme pour lui répondre, Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique, lance un appel au peuple tchadien de rester unis pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes et rassure que leur prise en charge médicale sera une priorité.
Ce moment très douloureux doit nous servir de leçon et renforcer nos liens en tant que fils et filles de ce pays pour affronter les défis terroristes qui se perpétuent encore. Il va de soi qu'il ne vous appartient pas de réclamer une quelconque prise en charge. Pour moi, elle est automatique. Vous sortez de l'enfer, la moindre des choses, c'est qu'en tant qu'autorité de tutelle, que nous nous occupions de vous le temps que vous soyez rétablis à 100%.
Les trois ex-otages de Boko Haram ont été enlevés le 30 octobre 2019 à quelques kilomètres de Tchoukoutalia dans la province du Lac, alors qu'ils étaient en mission commandée et ils ont été libérés le 28 août 2020. Maintenant, le plus dur pour eux sera de réapprendre à vivre une vie normale. André Kodmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali, la junte au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a convoqué samedi et dimanche prochain des concertations nationales pour élaborer une feuille de route pour la transition dont la durée sera discutée ce week-end à Bamako. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Les échanges préparatoires des concertations nationales ont permis au Comité national pour le salut du peuple, CNSP, de donner la parole aux différentes composantes de la société malienne. Dr Bokary Treta, président du RPM, ex-parti présidentiel.
Nous avons félicité les membres du comité pour leur initiative de consulter les forces politiques et sociales de notre pays. Nous avons marqué notre totale adhésion au processus de la transition politique et civile qu'ils ont annoncé. Nous avons espéré qu'ils tiennent parole ainsi qu'ils se sont engagés vraiment donc à rendre le processus participatif, le processus inclusif eux-mêmes d'être d'égal commerce, d'égal partage vis-à-vis de l'ensemble des forces politiques et sociales.
Le M5-RFP souhaite une transition de 18 à 24 mois avec des civils à la tête des institutions. Maître Muntaga Tall, membre du M5-RFP.
C'est que pour la gestion de la transition, il ne faut pas opposer les militaires aux civils. Il ne faut pas accepter le cloisonnement. Il ne faut pas dire les civils ou les politiques dehors. Il ne faut pas dire les militaires dans les casernes. Certes, la transition doit être pour moi dirigée par des civils, mais il y a suffisamment de choses à faire. Il y a tellement de tâches que les militaires doivent avoir un rôle éminent à jouer à tous les niveaux. Pour moi, ce qu'il y a à faire, peut-être 3 ans, mais on peut le compresser en renonçant à des heures de sommeil et de repos en 18 à 24 mois.
Les Maliens de l'extérieur, sous la conduite du Conseil supérieur de la diaspora, ont présenté leur proposition aux militaires à Kati. Mohamed Chérif Aïdara, président du CSDM.
Et nous voudrons un Mali avec des institutions fortes. Il ne faut pas qu'on se précipite ou à revenir encore sur les mêmes résultats. Donc aujourd'hui, ce que nous, la diaspora, nous pensons que c'est l'une des meilleures choses qui est arrivée au Mali. On ne souhaite pas un coup d'État. Nous sommes reconstitutionnalistes, mais il faut se dire quand une solution politiquement n'est pas trouvée, il faut la chercher ailleurs. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une charte. Cette charte et cette transition serait inclus dans notre constitution au sein duquel tout le monde va se reconnaître.
Les avocats du Mali ont attiré l'attention des militaires sur les questions de droit. Maître Moustapha Cissé, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali.
Pour la tenue des assises, nous sommes partis du principe que ces assises doivent être inclusives. Mais faire en sorte aussi que sur les éléments de l'égalité, les questions de droit, que le CNSP ne soit pas la seule structure à définir les normes ou à en organiser le cadre, que cela puisse être fait en étroite collaboration avec les structures qui ont pour vocation de dire le droit et de parler de droit.
Le monde des affaires est sérieusement étouffé par les sanctions de la CEDEAO, surtout au niveau de la BCAO. Youssouf Batili, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali.
Nous avons fait comprendre quand même qu'il y a des points qui sont très urgents à notre niveau aujourd'hui par rapport à l'approvisionnement de notre pays dans les premières nécessités. Nous avons attiré leur attention par rapport au blocus au niveau de la BCAO pour qu'on puisse vraiment conjuguer nos efforts pour faire en sorte qu'on puisse débloquer par rapport au transfert international dans l'espace CEDEAO.
Comme les partis politiques, les organisations de la société civile, les groupes d'ex-rebelles ont été reçus à Kati. Chacun a fait ses propositions. Sur la base de ces propositions, se tiendra les 5 et 6 septembre prochains les concertations nationale sur la gestion de la transition au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, c'est donc officiel. Le président sortant Alpha Condé est candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre, selon son parti RPG Arc-en-Ciel. Le président Condé avait été désigné candidat le 6 août dernier par son parti. Selon un communiqué lu à la télévision nationale, le président guinéen a favorablement répondu à l'appel de sa formation politique. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est peut-être la fin du suspense, peut-être parce que la confirmation de la candidature du président Condé est faite par son parti qui, une nouvelle fois, réclame le président sortant pour porter les couleurs du RPG Arc-en-Ciel à la prochaine élection présidentielle dans la capitale. L'annonce fait des réactions.
Ce qui a été lu hier, c'est un non-événement. Pourquoi pas Alpha Condé? On l'a invité au Palais du Peuple, il n'est pas venu pour dire oui devant les gens. Il fait ça par écrit.
La déclaration qui est passée hier, je mets ça tout simplement au compte d'un parti politique qui sont en train d'influencer la communauté ou le peuple. Lui-même, il n'a rien dit. Pourquoi lui-même, il ne peut pas parler? Il n'a qu'à nous dire ses intentions. C'est sur cette base que nous allons l'apprécier. Voilà. Sinon, moi, jusqu'à après, au contraire, je dirais que Alpha, il n'est pas prêt à aller au présidentiel d'octobre 2020.
L'annonce a été faite lundi soir à travers un communiqué lu en direct à la télévision nationale. Alpha Condé a accepté d'être le candidat du parti sur la base d'un programme de gouvernance en faveur des jeunes et des femmes. Le parti de la majorité a soumis une proposition de pacte pour l'application de ce programme, a fait savoir le RPG Arc-en-Ciel. Ce citoyen ne semble pas surpris.
Un deal en quelque sorte, et je pense qu'il fallait
donner cette forme-là à la démarche pour donc Alpha officialise sa candidature. Mais le jour où Alpha demandait ça, moi je pense aussi que c'était une manière pour lui de faire les yeux doux à ceux qui, dans sa base politique, étaient fâchés en ce moment-là, Siguiri et Kankan. Donc c'était un signal qu'il envoyait aux gens de la Haute-Guinée. Donc quand Alpha dit pensez aux anciens, pensez aux jeunes, c'était politiquement stratégique, le temps de calmer les ardeurs et que pratiquement 25 jours après maintenant, on dise maintenant c'est bon, on officialise tout et tout.
Autre réaction, celle du Front National pour la défense de la Constitution. Le collectif dénonce une candidature anticonstitutionnelle et appelle à la reprise des manifestations en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Les tensions raciales en Amérique occupent le devant de la scène dans la campagne présidentielle à la suite d'affrontements meurtriers entre les manifestants de Black Lives Matter et les partisans blancs du président Donald Trump. Au cours du week-end dernier, le président américain a réagi avec un message fort fondé sur le respect de la loi et de l'ordre, tandis que son rival démocrate, Joe Biden, a accusé M. Trump ce mardi d'encourager imprudemment la violence. Compte rendu de Brian Padden, relaté par Jacques Aristide.
Le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, a critiqué lundi le président pour la violence meurtrière du week-end après des affrontements à Portland, dans l'Oregon, entre des partisans de Donald Trump et des manifestants pro-égalité raciale.
Il peut croire que prononcer les mots « loi et ordre » le rend fort, mais son incapacité à appeler ses propres partisans à cesser d'agir en tant que milice armée dans ce pays montre à quel point il est faible.
Samedi à Portland, une personne a été tuée par balle après des affrontements entre des partisans de Trump, certains d'entre eux armés, et des manifestants de Black Lives Matter qui tiennent à des protestations nocturnes depuis 3 mois. La victime était affiliée à un groupe d'activistes conservateurs appelé Patriot Prayer. Dimanche, sur Twitter, le président Trump a qualifié les contre-manifestants de Portland qui le soutiennent de grands patriotes. La semaine dernière, à Kenosha, dans le Wisconsin, un partisan de Trump a tiré sur 3 personnes, dont 2 mortellement, lors de manifestations qui ont éclaté après qu'un homme noir a reçu 7 balles dans le dos lors d'un affrontement avec la police. Lors de la convention républicaine, le président Trump a dénoncé les manifestants pour l'égalité raciale comme des anarchistes et a critiqué les démocrates pour avoir toléré la violence commise par ces groupes afin de maintenir le soutien des électeurs afro-américains.
Si le Parti démocrate veut se tenir aux côtés des anarchistes, des agitateurs, des émeutiers, des pillards et des brûleurs de drapeaux, c'est à eux de décider. Mais moi, en tant que votre président, je n'en ferai pas partie.
Biden a vivement dénoncé hier toute violence commise par des partisans ou des opposants.
C'est l'anarchie pure et simple. Et ceux qui en sont les auteurs devraient être poursuivis. La violence n'apportera pas de changement. Cela n'apportera que la destruction.
Le président Trump a prévu de visiter Kenosha, même si le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, l'a exhorté à ne pas venir en écrivant ceci dans une lettre. Votre présence ne fera que retarder ce que nous faisons pour surmonter la division. Le maire démocrate de Portland, Ted Wheeler, a également critiqué Trump pour, selon lui, avoir fomenté la haine et la division dans le pays. Trump a qualifié Wheeler d'imbécile sur Twitter pour ne pas avoir recours à la garde nationale pour rétablir l'ordre. Biden a tenté de faire de l'incapacité de Trump à contenir la pandémie de coronavirus le principal enjeu de la campagne. Il reste à déterminer si le message de Trump sur la loi et l'ordre changera la dynamique. Les sondages indiquent que l'avance de Biden sur Trump se réduit dans des états clés comme le Michigan et la Pennsylvanie.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. God bless. Peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA.